Aujourd'hui, je vais vous parler d'un écrivain très particulier, une romancière de nos contemporaines, Mario de Muraille. Et il se trouve que j'ai l'honneur et l'avantage de la connaître depuis très longtemps. Et aussi bien, je l'avais remarquée pour la qualité de ses dissertations quand elle était à la Sorbonne, mon étudiante. C'est une licence S-Lettres. Elle était singulière, toujours habillée en homme. Elle continue du reste. En un temps, n'est-ce pas, où le tailleur-pantalon pour les femmes était quand même rare. Elle avait cette silhouette élancée, ce visage intelligent et très fin, un peu ingénu et un peu insolent à la fois, ce qui lui créait une physionomie très particulière. Et aussi, elle aimait les chapeaux. Donc, elle était vêtue en homme avec une cravate, mais elle avait des chapeaux. Et puis, vint le temps où elle me demanda de diriger son mémoire de maîtrise, ce que j'acceptais volontiers. Et la chose n'était pas simple, parce qu'elle venait de se marier, et elle suivait son mari qui partait en Martinique ou en Guadeloupe. Donc, j'ai vérifié le progrès de son travail par des échanges de lettres. C'était un mémoire sur Jean Giraudoux, et sur cette pièce admirable de Giraudoux qui est Intermezzo, qui est une pièce profonde, mystérieuse et cocasse. Peut-être un peu loufoque à certains égards, pleine de fantaisie. Et beaucoup plus tard, je me suis dit qu'il n'était pas très étonnant qu'elle eût choisi Giraudoux, cette pièce-là de Giraudoux, puisque son œuvre est cocasse, avec beaucoup de sourires et de rires, du pathétique aussi, une profondeur et une écriture particulièrement soignée, travaillée, raffinée. Mais après sa maîtrise, je l'ai un peu perdue de vue. Elle était partie en Angleterre, ayant obtenu le système Erasmus existait, elle naquit en 1954, donc cela nous met dans les années 74. Elle était partie pour y travailler alors un sujet de thèse qu'elle avait déposé en Sorbonne auprès d'un professeur qui, malheureusement, pour elle, j'ai peur que ce fût moi qui le lui avait recommandé, ce professeur n'aimait pas la littérature pour la jeunesse, n'aimait pas les enfants et même les détestait et n'avait pas beaucoup de curiosité envers les chefs-d'œuvre de la littérature anglaise. Alors Mario, en Angleterre, a travaillé un sujet, elle est arrivée au bout de sa thèse, mais la soutenance fut orageuse, elle fut sur le point d'être refusée. Ses thèses n'agréaient point à ce professeur, aujourd'hui décédé. Je ne le nomme pas. Son sujet est porté sur les modalités d'adaptation à un public d'enfants des chefs-d'œuvre de la littérature adulte. Mais, une question tout de suite surgissait, de grands livres pour adultes sont devenus la proie d'un public d'enfants. C'est le cas de Don Quichotte, c'est le cas des Voyages de Gulliver, c'est le cas des romans de Jules Verne. Il n'y a même pas eu besoin, vous voyez, d'un travail de réécriture. Aujourd'hui, les éditeurs saccagent les textes en prétexte que les enfants ne comprendront pas telle péripétie ou que tel point de vocabulaire leur échappera. Mais ce n'était pas le cas en ce temps-là. Donc on en a vu le public enfantin s'emparer de ces livres et même s'en faire une sorte de propriété privée. Quand j'avais votre âge, même en deçà, personne ne pensait autour de moi, parmi les grandes personnes, à lire les Voyages de Gulliver. C'était un livre pour les enfants. Personne, hormis les spécialistes de littérature anglaise. Alors Mario de Muraille s'était intéressé à cela, et fruit de ses lectures, ce fut une fille qui certainement lut énormément, elle devait avoir la chance de peu dormir. Et elle dévorait les livres dont la maison de ses parents était évidemment bourrée. Elle avait depuis toujours une grande ferveur pour Dickens. Alors elle l'a raconté lors d'interviews dans la presse et puis dans un volume qui fait la biographie de sa famille et bien sûr son autobiographie. Elle allait régulièrement, je ne sais pas si la sépulture de Dickens se trouve à Londres ou hors de Londres, mais elle allait prier régulièrement sur la tombe de Dickens, souvent en larmes, demandant à Dickens de l'inspirer en tant que futur écrivain, et même d'inspirer toute sa vie. Aussi bien, à l'école des loisirs, elle a fait paraître une biographie de Dickens, et puis une version allégée des Grandes Espérances. Mais je vous conseille de lire Les Grandes Espérances in extenso, ce livre prodigieux de Dickens. En France, après le séjour au tropique de son mari, il lui fallait gagner sans doute un peu d'argent et s'occuper. Elle a multiplié les articles pour la presse du cœur. Intimité, nous deux, vous voyez cette littérature de gare. Bon, elle s'est fait la main. Elle a écrit deux volumes gros, touchus, peu intéressants, pour adultes, édités en Suisse. Puis, s'étant fait la main à écrire des niaiseries sentimentales pour les grandes personnes, elle s'est lancée dans la rédaction de textes pour la jeunesse. Elle a commencé par la revue Astrapi et elle y a publié plus de 80 textes. Sa première série, le livre avait du succès et par conséquent, elle écrivait de nouvelles histoires, parues d'abord dans Astrapi, dans J'aime lire, dans Je bouquine, si bien que son éditeur majeur, c'est l'École des loisirs. Son premier titre, Babysitter Blues. Alors, c'est une série sur un petit garçon qui a 14 ans au début de l'histoire et qui vit seul avec sa mère, une mère célibataire et une mère, excusez le mot, remarquablement empotée. Et heureusement que le petit Émilien fait les courses, fait la cuisine, fait le ménage, organise les loisirs de sa mère, surveille son activité professionnelle, simultanément lui-même à l'école, bien sûr, il fait de bonnes études et il y a ses premières aventures amoureuses. Cette série des Émiliens comprend 7 titres. Babysitter Blues, Le trésor de mon père, Le clocher d'Argal, Au bonheur des larmes, Un séducteur né, Son sucre merci et Nos amours ne vont pas si mal. Simultanément, elle a commencé une deuxième série, alors, qui m'intéresse particulièrement, mais j'aimais beaucoup la série des Émiliens. Et je lui ai suggéré quantité de pistes pour articuler les histoires d'Émilien Pardiné, de ce petit garçon, avec les personnages de ses autres séries. Mais elle ne m'a pas écouté. Elle n'a pas voulu donner une unité à son œuvre, comme Balzac le fit. La seconde série, tous ces titres, vous les trouvez à l'École des loisirs, et puis allez les emprunter dans les rayons jeunesse des bibliothèques publiques, c'est la série des Niels Hazard. Niels Hazard est professeur d'étruscologie à la Sorbonne. Et il me ressemble, bien que je ne sois pas étruscologue. Comme quoi je suis un personnage littéraire, sous le pseudonyme de Niels Hazard. Alors Niels Hazard organise en Étrurie, en Toscane, hein, des fouilles archéologiques pour retrouver des sépultures étrusques, et parmi ses stagiaires, qui sont toutes plus ou moins amoureuses de lui, il y a une petite Marianne Navert. Ma fille aînée s'appelle Marianne Lanavert. Donc, je me suis faufilé à mon corps défendant dans ce livre. Niels Hazard, une secrétaire et qui devient sa petite amie, il a des péripéties un peu policières, magnifique. Simultanément, et puis ensuite, elle a écrit des ouvrages fantastiques. Ma vie a changé, Amour, vampire et loup-garou, L'expérienceur, avec son frère et sa sœur, avec Elvire et Loris, dont je parle sans les connaître. Elle a écrit une série fantastique sur le bourrage de crâne d'enfants par une redoutable secte, vous avez peut-être lu cela, Golem. Ça ne vous dit rien ? En 4 volumes. Puis, elle en est venue à l'histoire, au roman historique. Son œuvre est très variée. Un roman d'initiation, roman social, roman policier, roman historique. Alors, elle a publié, dans Je bouquine, un feuilleton, il faut être hardi pour le faire, sur Jésus, une vie de Jésus. Jésus comme un roman. Une biographie de Charles Dickens, et puis une trilogie qui se déroule sous la Restauration, Malo de l'Ange, fils de voleur, Malo de l'Ange, fils de personne, Malo de l'Ange et le fils du roi. C'est un petit garçon qui a gagné la confiance, probablement de son père, son père n'est autre qu'un ancien bagnard devenu supérieur de la police du temps de Louis-Philippe. Et le petit garçon déjoue un attentat contre le roi Louis-Philippe, une bombe que l'on devait lancer. Simultanément, Malo de Lange a des amours avec une jeune fille beaucoup mieux née que lui, parce que lui, au mieux, n'est-ce pas, est le fils d'un ancien bagnard. Si le supérieur de la police est son véritable père. Donc vous êtes dans une fiction historique, un peu à la façon de Victor Hugo, et il dit bien qu'elle s'est inspirée des mémoires de Vidocq, bagnard devenu policier, qui est la grande source de Balzac pour le personnage de votre l'abbé Carlos Herrera, un chanoine du diocèse de Tolède. Vautrin. Par la suite, elle va donner des livres à très grand succès, dont des téléfilms et des pièces de théâtre ont été tirés, des films traitant de problèmes absolument contemporains, notamment Oh Boy, qui a l'hardiesse de traiter d'un jeune homme qui se trouve être homosexuel, et les difficultés d'insertion de ce jeune homme auprès de ses proches, dans son école et dans sa famille. En 2004, c'est un livre très remarquable aussi, simple, vous l'avez peut-être lu, non ? Un demeuré. Les parents, épouvantés d'avoir un fils qui est une espèce de crétin, l'abandonnent. C'est donc son frère cadet, qui lui est toute sa tête, qui est en situation de devoir s'occuper presque exclusivement, suite à la démission des parents, de son frère demeuré. Donc il s'occupe de lui, gère le faible cerveau de ce garçon, etc. Un livre sur l'amour, les premières amours des adolescents, en 2010, 3000 façons de dire je t'aime. Par la suite, il y aurait une série sur un psychologue, non pas un psychiatre, mais un psychologue à Orléans, où elle a résidé, Sauveur et Fils, 6 volumes, s'il vous plaît. Et puis, en 2021, A-N-G-I-E, tome 1, remarquable roman policier sur les bas-fonds du Havre. Mais il y a bien d'autres livres, hein, puisqu'elle a ciblé les tout-petits-enfants. Chez Gallimard, vous avez un petit livre qui s'appelle Mystère, que j'aime beaucoup. Elle déconstruit les contes de Charles Perrault. Alors Chaperon Rouge est agressé par un loup, qui n'est pas un loup, qui est un homme, qui rêve de la violer. Chaperon Rouge, qui dans l'histoire s'appelle Chaperon Bleu, dit « Mais attendez un peu, je suis trop petite. Bon. » Suite à suivre. Le chien des mers, mon bébé à 210 francs, qui a peur de Madame la crise. Elle continue de donner, c'est une longue série, dans la presse jeunesse, la série L'Espionne, la petite espionne Romarine. Ça vous dit quelque chose ? Oui, voilà. Il y a 25 titres, dont Je bouquine, elle a donné La peur de ma vie, Moi le Zoulou, Maïté coiffure. Elle a publié 2 ou 3 essais sur l'art d'écrire pour la jeunesse, aussi bien, elle a obtenu un très grand succès, elle a beaucoup écrit, 60 de livres, peut-être davantage. Elle a été décorée de la Légion d'honneur, chevalier, puis premier officier, au titre de service rendu à la culture française et à l'école française. Elle a résidé à Orléans, à Bordeaux, puis à Orléans, maintenant dans une petite ville sur la Loire, pas très loin, et elle avait l'habitude, avec l'accord des enseignants, de venir dans les classes difficiles, tenter de donner aux enfants le goût de la lecture et mieux de la littérature. Donc c'est une liseuse, une remarquable liseuse, et elle s'est racontée les histoires. Elle transportait l'enthousiasme des classes entières. Donc c'est pour sa production littéraire et pour son activité pédagogique qu'elle a été ainsi récompensée. Ses livres sont couverts de prix. Elle a eu tout ce qu'il est possible d'avoir comme prix spécialisé dans les littératures jeunesse. Elle est régulièrement sélectionnée pour le Hans Christian Andersen Prix, et pour Charles Dickens, prix, mais elle n'a pas encore été couronnée par les Scandinaves ou par les Anglais. Elle a publié une autobiographie. Bref, son œuvre est parfaitement reconnue. Et sur Internet, vous trouverez toute la liste de tous ces titres. Et à chaque titre, vous avez le relevé de divers prix qu'elle a obtenus. Elle vend à peu près 200 000 exemplaires de ses livres par an en France. Ce qui, me semble-t-il, est un tirage très respectable. Alors j'en viens au plus gros de ses livres, Miss Charity, que voici, dont je me plais à dire qu'il est presque aussi gros que L'être et le néant de Jean-Paul Sartre. Je pense que l'École des loisirs n'a jamais publié un livre aussi gros, mais la typographie est aérée. C'est un roman sur l'époque victorienne. L'héroïne, Miss Charity, c'est son prénom, alors je prononce mal l'anglais, Charity, Tedler, Miss Tedler est née en 1870. Donc nous sommes sous le règne de la reine Victoria, qui régna sur l'Angleterre de 1837 à 1901. Je ne me suis pas étonné que Mario de Muraille, qui aimait tant Dickens, ait choisi un sujet britannique. Elle devait avoir des souvenirs de son séjour d'une année en Angleterre, pour y faire sa thèse. Sa thèse fut soutenue en 1979. Elle avait donné une biographie de Dickens, une adaptation des Grandes Espérances, puis cette série historique sur Malo de l'Ange se déroule, à la charnière du 1er et du 2e 19e siècle. Ce livre est traversé de réminiscences d'Alexandre Dumas, de Balzac, de Gérard de Nerval aussi. Bref, on devine que la littérature du 19e siècle ne la laissait pas indifférente du tout. Et puis, elle me l'a confiée, alors je la connais donc depuis, les années 70, nous nous voyons très peu, mais nous nous écrivons souvent. Chaque fois qu'elle fait paraître un livre, elle a la délicatesse de me l'expédier, et du reste, l'un d'entre eux, Dinky Rouge Sang, s'ouvre par cet épigraphe « Alain Lanavert, mon professeur ». C'est gentil, comme si j'avais été le seul professeur de sa vie. pour moi, c'est comme une fille adoptive que je ne vois pas, mais je reconnais son écriture, je lis ses lettres, je vous disais la dernière, avec beaucoup de peine au cœur. Elle m'a dit souvent que, comme moi, elle avait adoré Petite fille, la comtesse de Ségur, et qu'elle continuait de lire la comtesse de Ségur, qui nous renvoie encore au 19e siècle. Existe, publié par l'École des loisirs, un tout petit livre qui est bien fait et plein de précisions sur Mario de Muraille. L'auteur est Sophie Scherrer, C-H-E-R-R. C'est des petits livres sur les auteurs jeunesse de cette maison d'édition qui étaient distribués gratuitement. Donc vous pouvez passer rue de Sèvres, presque à côté du Lutetia, à l'École des loisirs, et demander un exemplaire si vous osez sortir et braver l'épidémie. C'est quand même, je vous souhaite. Le lectrice de Dickens, pas de doute, la petite fille, Miss Charity Tedler, doit son nom à un roman peu connu en France de Dickens, La Terre de Tom Tedler, que vous pouvez lire sur Internet, en traduction française. Un roman de 1851 ou 61, selon mes souvenirs. Donc l'héroïne doit son nom à Dickens. Le livre est illustré, heureusement illustré, avec ce qu'il faut de fantaisie, de cocasserie, mais aussi de grâce, par Philippe Dumas. Elle eut d'autres illustrateurs assez remarquables, Yvan Pommeau, Serge Bloch, etc. Donc, dans mon esprit, elle a voulu tenter de rivaliser avec son cher Dickens, le père d'adoption imaginaire qu'elle s'est choisi. Les romans de Dickens sont longs, le sien est long, 563 pages, s'il vous plaît. Donc c'est un livre un peu monstrueux. Alors ce livre a la forme d'une autobiographie. Miss Charity, qui finit par se marier, donc il s'appelle Clunis, sur le tard, écrit sa vie. Sa vie est modelée sur celle d'une autre Anglaise, que Margot de Muraille aime, que vous devez aimer aussi à cause de ses petits dessins, Béatrix Potter. Béatrix Potter naquit en 1866, Charity en 70, et mourut à 77 ans en 43. Alors, toute la jeunesse de Béatrix Potter, voyez le site internet sur elle, et vous y retrouverez ses dessins sur ses petits lapins, ses petits crapauds, ses petites souris, dessins plein de couleurs, d'élégance, de charme. Elle était la malheureuse enfant unique de parents richissimes, enrichis dans le coton, rentiers, ne faisant rien, logeant dans les plus beaux quartiers de Londres, avec quelques gouvernantes, de temps en temps une institutrice, élevée à l'écart du monde. Une jeune fille qui se respecte ne fréquente pas le monde. Dieu merci, la petite Béatrix ne manquait pas de ressources. Au lieu de s'ennuyer, c'est pas question d'importuner ses parents, elle s'est passionnée, comme Miss Charity, pour les petites bêtes qu'elle en trouvait dans le jardin, le petit jardin qui était devant la demeure familiale. En réalité, Béatrix Potter avait un père qui fit quand même quelque chose, ce n'est pas le cas dans le roman de Muraille, qui fit quelque chose pour elle. Il l'amenait régulièrement voir des expositions à la Royal Academy. Et il était l'ami intime d'un peintre pré-raphaélite, John Millais, moyennant quoi la petite Béatrix, très tôt, hein, vit de beaux tableaux, se frotta un peu au monde de la peinture. En vacances, l'on part dans le pays des lacs, au nord de l'Angleterre, et là, Béatrix ramasse tout ce qu'elle peut trouver de grenouilles, de crapauds, de hérissons, de taupes, elle collectionne, bien sûr, elle a un herbier, bien sûr, comme Miss Charity, elle ramasse des fossiles, des insectes, et elle se passionne pour ce qu'on appelait à l'époque les sciences naturelles. Et les parents eurent la générosité de lui offrir quantité de livres. Donc elle devint véritablement savante. Simultanément, elle dessine beaucoup, elle reproduit fleurs, plantes, animaux, et sa passion particulière, c'est bien dit dans le livre de Margot de Muraille, sa passion particulière, c'est la mycologie, à savoir la science des champignons. Donc elle en ramasse, elle en fait collection, elle les dissèque, elle les dessine, et elle a là, forte de lecture savante, elle a là jusqu'à former une thèse sur la propagation, le développement des lichens, des lichens. Il n'était pas question pour elle, devenue une jeune fille, de rencontrer des universités, des savants. Personne ne voulait l'entendre sur ce sujet, aussi bien elle était une femme. Et il eut à Londres une conférence sur l'une de ses découvertes scientifiques sur les lichens, mais elle ne put écouter la conférence, elle n'était pas admise puisqu'elle était femme. Donc cette société victorienne, extraordinairement misogyne, vous la retrouvez exactement décrite dans le livre de Margot de Muraille. Elle a l'idée, sur le conseil d'un de ses amis, un peu comme ici, comme chez Margot, elle a l'idée de dessiner des petits animaux, des plantes et des fleurs, sur des cartes de vœux. Et elle s'aperçoit que ces cartes de vœux se vendent. Au début, elles circulent uniquement, n'est-ce pas, on a imprime discrètement, par compromettre son nom dans le commerce, discrètement on fait imprimer quelques cartes de vœux et on les fait circuler dans le cercle familial, le cercle resserré des amis. Et ces cartes ont du succès. Toujours la vie de Béatrix Potter, pour distraire un petit garçon qui avait attrapé la scarlatine, elle se met à lui dessiner, pendant sa convalescence, les histoires de quatre petits lapins, Flopsy, Mopsy, Cottontail et Peter, et le petit garçon est enchanté, la famille admire le savoir-faire de l'illustratrice, le temps passe, et au bout de 7 ans, reprenant ses dessins, elle confectionne, privée d'argent qu'elle était par ses parents, ne se résignant pas à se marier, d'accepter un mariage de pure convention, le mariage d'argent, elle s'occupe à confectionner un livre pour enfants. Elle avait remarqué que le format des livres pour les enfants était beaucoup, beaucoup trop grand, les livres étaient trop lourds, et les enfants tournaient mal les pages. Donc elle a l'idée d'un tout petit format, 15 cm, et pas sur du papier ordinaire, mais sur un papier très épais, presque du carton, pour que les livres puissent être lus et relus, et lus par le grand frère, le petit frère, la petite sœur, indéfiniment. Ce livre, comme personnage des animaux, tous représentent des traits psychologiques humains, mais ces animaux sont de véritables animaux, ils ne sont pas caricaturés. Son lapin ressemble à un véritable lapin. Sa souris a une queue, l'intérieur des oreilles rose, les rats ont ce qu'il faut de poils, ou vous savez que les rats ont des poils, mais ils ont des vêtements humains et des comportements humains. Souvent, la moralité de ces histoires est assez sévère. Ces animaux sont imprudents et ils s'en trouvent punis. Elle invente par exemple un canard, mais le canard finit au four. La cuisinière, n'est-ce pas, la plumée évidée, et sert à la table des vrais humains le canard. Premier tirage, 250 exemplaires. Immense succès. Conan Doyle lui-même en avait acheté un exemplaire pour ses enfants. C'est le premier titre, c'est Peter Rabbit, le lapin Pierre le lapin. Un éditeur sérieux de Londres passe marché avec elle, fait un second tirage. Le livre a un tel succès que des éditeurs en ont produit aux États-Unis des piratages. Elle a 36 ans, elle vit toujours chez ses parents, mais pour la première fois, elle gagne sa vie, ce qui lui donne une certaine indépendance. Et par la suite, elle va quand même donner 23 albums. Elle se fiance avec un charmant jeune homme, lequel meurt. Le mariage est impossible. Elle est donc restée célibataire jusqu'à l'âge de 47 ans. Alors tout cela ne nous est pas donné par Marie-Louise Muraille, qui s'est éloignée de la vie véritable de Beatrix Potter. Et en 1913, elle a épousé un notaire, un riche notaire du nord de l'Angleterre. L'âge de l'un et l'autre fait qu'il n'y eut pas d'enfant, mais elle fut très heureuse en mariage, puisque les activités qu'elle avait aux côtés de son mari l'empêchèrent de continuer sa carrière littéraire. Et elle s'est contentée, elle a poursuivi, n'est-ce pas, ses études passionnées de sciences naturelles, mais elle s'est contentée de gérer ses domaines, et elle s'est occupée d'élevage de moutons. Elle meurt en 43 et elle a légué à un établissement charitable anglais ses biens. Elle était veuve à ce moment-là. Elle avait quand même un domaine de 16 km², 14 fermes, des troupeaux de moutons gigantesques et beaucoup de lapins. Elle prétendait en s'en amusant que c'était des descendants tous de Peter Rabbit, de son personnage. Alors, les contes de Pierre Lapin, Noisette l'écureuil, Jeannot Lapin, deux vilaines souris, Madame Piquedru la blanchisseuse, le méchant petit lapin, Mademoiselle Métouffe, Madame Trottemenu, Panache petit gris, etc., etc., etc. Donc la trame de la vie de Miss Charity, c'est la vie de Beatrix Potter. La vraisemblance est au rendez-vous, parce que le livre a la forme en effet de mémoire, écrit par un auteur désormais couronné de succès, se retournant vers son passé, et le livre est écrit au moins après 1900, puisqu'il est fait mention de la mort d'Oscar Wilde. Et Oscar Wilde, c'est page 561, est un des personnages du livre. La chronologie est très ferme. Depuis la première page, Miss Charity a 5 ans au début, donc on est en 1875, et on va presque jusqu'à 1900, son mariage avec Monsieur Ashley, qui n'est pas notaire. Bon. Elle se marie donc à 26 ans, beaucoup plus tôt que Beatrix Potter. Elle a passé sa vie aux côtés de son époux, qui est comédien professionnel, et elle prend du recul, de la distance, et elle narre, peut-être pour sa descendance, pour ses amis, pour ses proches, peut-être pour son époux, elle narre toute sa vie. Alors vous trouvez des phrases qui sont tout à fait celles de mémorialistes, hein. Elle dit que sur fond d'oubli, seul ce souvenir lui reste. Dès le début, en ce temps-là, nous habitions. Je m'aperçois en me relisant, comme je l'ai indiqué, elle donne des dates. Elle s'étonne qu'un souvenir puisse rester tel quel, comme immobile, figé. Elle vous dit un gentleman dont le nom m'échappe. Je me souviens plus particulièrement de ceci, de cela. Donc la technique d'un livre par la première personne sous forme d'autobiographie est bien maîtrisée. Mais ce n'est pas un roman sur les intermittences de la mémoire d'une narratrice. Elle dispose d'une admirable mémoire. Elle se souvient impeccablement des décors, des couleurs, des senteurs depuis l'âge de 5 ans. Mais à dire vrai, ce n'est pas très extraordinaire, mais je garde en ce qui me concerne des souvenirs très précis remontant à mes 4 ans, et peut-être même à mes 3 ans. Elle a une très bonne mémoire, mais c'est normal. C'est une fille, d'abord, une Anglaise ensuite, un écrivain enfin. Donc, elle a beaucoup de qualités sur les animaux, sur les décors, sur les pièces de théâtre. Elle a du mérite parce que dans sa vie, beaucoup de ses documents, ses carnets, ses agendas, ce qu'elle écrivait sur les animaux, ses dessins, tout cela a brûlé dans un incendie qui a ravagé l'étage de la nurserie, dans l'hôtel particulier où habite ses parents, durant l'hiver 1888. Alors à ce titre, ce livre ressuscite, si vous voulez, ce que peut être la vie d'une jeune fille issue de la très très riche bourgeoisie anglaise à l'époque victorienne. Avec beaucoup de descriptions, il est à peu près inévitable qu'on produise quelqu'un qui admire Dickens. Mais la forme de ses mémoires, ici, est très très originale. Puisque le livre hérite beaucoup de la comtesse de Ségur et des auteurs de la Bibliothèque Rose. Je vous donne lecture de la première page, premier chapitre. Tous les dimanches de mon enfance se ressemblaient. Voilà pourquoi celui-ci de l'hiver 1875 m'est resté en mémoire. J'allais avoir bientôt 5 ans. Maman commença la matinée par un interrogatoire, point à la ligne. Maman lisant, dont vous avez le nom du locuteur, au milieu de la page, exactement comme s'il s'agissait d'une œuvre théâtrale. Maman lisant, quelle est la principale fin de la vie humaine? Moi récitant, c'est de connaître Dieu. Maman lisant, pourquoi dites-vous cela? Moi récitant, parce qu'il nous a mis au monde pour être glorifié en nous. Ne pouvant me prendre en défaut, maman referma d'un geste sec le guide spirituel du jeune enfant. Elle se tourna en direction d'un journal déplié au-dessus d'un fauteuil. « Maman, viendrez-vous à l'église ?»« Papa, je ne le pense pas. » Remarque de Charity, j'aurais aimé que maman me posât aussi la question. Aucune envie d'aller à l'église. On comprend pourquoi, je vous dis la suite. Le révérend Donovan fit son sermon ce jour-là, sur la phrase du prophète Ézéchiel, « Lorsque le pécheur se détourne du péché pour pratiquer la justice, il mérite de vivre. » Le révérend Donovan, qui avait la mauvaise habitude de se poser des questions à haute voix, se demanda tout à coup, « Pourquoi Dieu permet-il au pécheur de vivre s'il ne le mérite pas ?» Il me sembla qu'il me regardait, et j'ouvris la bouche, en cherchant désespérément ce que le guide spirituel du jeune enfant pouvait en penser. Le révérend Donovan donna tout de suite la réponse qui était « Le pécheur vit, car la bonté de Dieu est infinie. » Ouf ! Révérend Donovan, « Pourquoi dis-je que la bonté de Dieu est infinie ?» Remarque de Charité, la curiosité de cet homme était insatiable. Peu à peu, je sentis que les yeux me piquaient et je les fermais. Ce fut donc ce jour-là que je tombais de ma chaise comme une masse. Sur le chemin du retour, maman se demanda tout, si pouvait encore, après une telle honte, se rendre à l'église avec moi. Je pus enfin répondre, comme papa, je ne le pense pas. British Fiona. Alors, cette technique, vous voyez, consistant à aligner les répliques des personnages, en évitant les dit-il, dit-elle, reprit-il, reprit-elle, mais en nommant au milieu de la page le locuteur, c'est une technique dramatique, bien sûr, et c'est la technique, il vous en souvient, qu'avait adoptée la comtesse de Ségur. Maman, Sophie, Camille, Madeleine, Madame de Fleurville, etc. Le seul roman de Madame de Ségur qui, à la première personne, c'est des mémoires d'un âne, où Cadichon, l'âne, raconte sa vie. Mais jamais Cadichon ne dit « moi ». Dans ce livre, elle n'a jamais mis « moi » avec une réplique, puisque justement Cadichon, quoique très savant, fort intelligent, Cadichon est un âne et ne parle pas. Donc Madame de Ségur, dans les mémoires d'un âne, s'était condamnée à une narration différente de celle qu'elle a pratiquée pour le dialogue avec tous ses autres romans. Et la réussite de Marie-Aude Muraille me semble étonnante, parce que le livre est très long, mais il n'y a pas que des conversations à deux personnages. Elle est capable, n'est-ce pas, de faire crépiter les propos, tous, n'est-ce pas, munis de cette étiquette initiale qui est le locuteur, à longueur de page. C'est un dispositif incongru, parfaitement anachronique aujourd'hui. Plus personne ne penserait, n'est-ce pas, écrire des dialogues sous cette forme-là, sauf si vous travaillez ouvertement pour le théâtre. J'en comprends bien la signification. D'une part, Marie-Aude Muraille aime beaucoup la comtesse de Ségur, je vous le disais. D'autre part, dans le livre, il va être de plus en plus question de théâtre. À la fin, quand Charlotte est devenue une jeune personne, elle a plus de 20 ans, elle va, s'il vous plaît, rencontrer Oscar Wilde et Bernard Shaw. Elle va devoir, Bernard Shaw, elle a besoin de lui demander d'écrire une pièce avec un emploi pour le jeune homme dont elle s'occupe, qu'elle secourt et dont elle est secrètement amoureuse et qu'elle épousera à la fin. Mais Bernard Shaw est à son club, un club qui n'admet pas de femmes. On est entre gentlemen. Par conséquent, pour le rencontrer, elle se déguise en homme. Et là, je retrouve ma Marie-Aude, jeune fille, qui vient se déguiser en homme. Du reste, elle a écrit dans sa série sur Sauveur, ce psychothérapeute, elle a écrit le drame d'une petite fille qui rêve d'être un petit garçon et pour se faire se travestir en garçon. Sujet tout à fait actuel. Comme Charity va épouser un comédien, faisant scandale, bien sûr, auprès de ses parents, parce que les comédiens sont des gens qu'on n'épouse pas. Et il faut épouser. Le père est taciturne, c'est un Anglais qui ne parle guère. La mère est d'un conformisme extraordinaire. Il n'est pas question d'épouser quelqu'un qui travaille. Il ne saurait épouser qu'un rentier. Par conséquent, quelqu'un issu de la très haute bourgeoisie ou de l'aristocratie. C'est encore mieux. Bon. Or, elle épouse quelqu'un, horreur, qui travaille, qui gagne sa vie, et qui gagne sa vie comme un saltimbanque, en jouant. Il est vrai, n'est-ce pas, qu'il joue de l'Oscar Wilde et de Bernard Shaw, ce qui vous met quand même du côté d'un théâtre de qualité. Donc, destiné à épouser un comédien, je conçois bien, n'est-ce pas, que l'auteur ait eu recours à cette technique qui a beaucoup à voir avec celle de l'écriture dramatique. J'ajoute que Charity, qui s'ennuie pour se divertir, apprend par cœur du Shakespeare. Et à la limite, tout Shakespeare, c'est encore du théâtre. Et il est question, dans ce roman, d'une pièce de Ben Jonson. Et les endroits descriptifs qui visent la haute société anglaise de l'époque victorienne sont très satiriques. Et comme le disait Thackeray dans le Livre des Snobs ou dans La Foire aux Vanités, Marie-Aude Muraille fait observer à la petite Charity les comédies mondaines que jouent les aristocrates ou les riches bourgeois. Tous, n'est-ce pas, sont en représentation, avec une étiquette, des rites, une étiquette absurde, des rites ridicules, et tous avec le grand sérieux, notamment lors d'un mariage. Bon, ces pages sont désopinantes. Tous jouent leur rôle. Alors, une société composée d'acteurs hypocrites, la société victorienne, et une jeune fille qui va épouser un comédien, l'écriture choisie par Marie-Aude Muraille n'est pas seulement, vous voyez, paradoxale, ou inspirée par un souci d'originalité. Elle me semble très fondée. Alors ce roman est un roman d'apprentissage. Pas de doute, étalé sur les 20 premières années de la vie d'une petite fille, puis d'une adolescente, puis d'une jeune fille, puis d'une presque vieille fille. Songez que dans ce milieu, se marier à 26 ans, c'est une horreur. On se marie à 18 ans. Oui, sinon, on cancane. Et en effet, Charity est très originale, est très indépendante d'esprit, et n'est pas d'une grande beauté. Donc, autour d'elle, sa mère au premier chef lui reproche, n'est-ce pas, d'être une graine de vieille fille. Mais elle va se marier. Alors, Charity est un personnage très attachant, muni d'un caractère. Elle a beaucoup de traits, énumérés, juxtaposés. Il y a ce qu'il faut de rappel au cours de ce gros livre pour que le personnage ne ressemble pas, vous voyez, à un mannequin sur lequel on apposerait des étiquettes, des oripeaux tour à tour. Les choses se tiennent et le livre donne le sentiment d'une psychologie conséquente, en effet très particulière. Alors c'est une fille unique, après le décès de ses deux sœurs, Prudence et Mercy. Le père révèle tardivement avoir souffert de l'absence d'un garçon, donc il se trouve un peu rassuré quand Charity a des manières garçonnières. Elle se met à pratiquer, comme le faisait vraiment, n'est-ce pas, le père de Béatrix Potter, elle se met à pratiquer la pêche à la mouche, pêche détruite à la mouche, dans les rivières du nord en Angleterre. Et elle se désole de n'être pas un garçon, parce qu'évidemment elle est gênée par ses jupons. Elle ne peut pas mettre les pieds dans l'eau, elle peut être bottée, elle n'est pas bottée jusqu'à la ceinture. Cet épisode dans le roman me semble venir d'un endroit des bons enfants, je vous en avais parlé, au début de ses cours, où la petite Sophie se désole de ne pas pouvoir se déchausser, de mettre ses pieds dans l'eau pour attraper avec les mains des écrevisses. Les mères sont horrifiées, les dames sont horrifiées, ses propres garçons, surtout pas aux jeunes filles. Elle se nomme Tedler. Tedler en anglais signifie broutille, pas grand chose, un brin borgnon, du menu frétin, pas grand chose. En effet, elle est petite, quand elle est enfant, elle est petite, elle n'est pas bruyante, très souvent elle se tait par timidité, mais elle se tait aussi pour avoir le temps d'observer, de critiquer et de juger le comportement des autres, des grandes personnes. Elle n'est pas jolie, elle aime surveiller, espionner, observer, ce qui est le propre d'un naturaliste. Elle est avec tout le temps avec sa loupe, à la campagne, à ramasser des insectes, des bestioles. Elle aime à écrire, et elle a cette singularité, je ne sais trop si vous fitez, je laisse là, de s'adresser des lettres à elle-même. Elle a 12 ans, et elle écrit à celle qu'elle sera quand elle aura 15 ans, avec une date, portée sur l'enveloppe, à n'ouvrir que lorsque j'aurai 15 ans. Donc elle écrit à la future personne qu'elle sera. Vous froncez vos sourcils, ou Ève, vous prenez un air terrible. Je ne sais trop quel âge vous avez. Imaginez que vous vous écriviez à vous quand vous aurez 30 ans.
Oui, je sais, justement, c'est un petit peu... C'est singulier, quand je remets en
train. Très. Alors, je pense que Marie-Aude Muraille s'est souvenue, c'est un écrivain qu'elle aime bien, que j'aime aussi beaucoup, c'est le poète Paul-Jean Toulet. Toulet a bourlingué, il se faisait offrir de prétendues enquêtes dans le monde. Il est parti en Indochine, en Malaisie, aux Indes, et il en profitait, hélas, c'est pas pour tâter beaucoup, de substances excitantes, d'opium, etc. Et alors, Toulet avait l'habitude, en voyage, au loin, de s'adresser à lui-même des cartes postales. Alors, il retrouvait sa boîte aux lettres bourrée de cartes postales, et c'était des matériaux pour en tirer des articles, des récits de voyage. Je vous donne le truc. À chaud, vous écrivez vos impressions de voyage, et vous les retrouvez toutes dans votre boîte aux lettres. Oups, si les voyous s'amusent à vandaliser vos boîtes aux lettres. Ce qui arrive. Donc, elle a dû, à mon avis, elle a pensé à cela. Elle a un physique assez particulier, elle a une voix très grave quand elle veut bien parler. ce qui va lui permettre par la suite, n'est-ce pas, de se travestir en garçon. Mais Bernard Shaw n'est pas idiot et reconnaît tout de suite, malgré le chapeau que, avec, dans lequel elle a caché ses cheveux, il reconnaît tout de suite qu'il a affaire à une jeune fille. Elle joue mal au piano, elle chante mal, elle danse très mal. Et du reste, elle n'aime pas danser. Elle regarde les danseurs. Un seul endroit, c'est un jeune homme qui s'empare d'elle sans lui demander son avis et qui la fait tourbillonner. Elle se laisse faire, mais c'est le garçon qu'elle épousera à la fin, qu'elle a connu très jeune. Elle n'est pas coquette, elle a parfaitement conscience qu'elle n'est pas jolie. Elle est vive, elle est rapide, mais elle court vite, elle monte les escaliers vite, mais elle fait tout cela sans grâce. Elle s'estime noiraude quand elle se regarde au miroir, et à chaque fois qu'elle se scrute au miroir, le bilan est sévère. Elle n'embellit pas avec l'âge, alors qu'elle a des cousines qui travaillaient par de l'acné horrible, soudainement s'épanouissent et deviennent de superbes filles à marier. Elle se rassure parce qu'elles épousent des imbéciles. Bon, mais ça ne suffit pas. Pour autant, elle lui donnait de la beauté. Elle a une mauvaise vue, elle porte des lunettes, qu'elle complète avec une loupe, elle est myope. Souvent, elle constate qu'elle n'a aucune qualité particulière, elle est timide, elle rougit volontiers, vous trouveriez bien des endroits où elle fait de façon très presque cynique son autoportrait. Mais, au fur et à mesure qu'elle prend l'âge, son caractère se précise. Depuis l'âge de 5 ans, elle a la passion des animaux. Ça va la conduire, n'est-ce pas, à devenir une admirable illustratrice de livres, les héros sont des animaux. Bien. Elle a un goût que toute la famille réprouve, parce que c'est un goût viril. Une femme ne doit point l'avoir. Elle a un goût pour les sciences exactes, pour les sciences naturelles. Elle aime les chiffres, les sciences, etc. Elle découvre, grâce à une institutrice qu'on lui prend comme professeur de piano et aquarelle, elle découvre avec exaltation, elle dessinait déjà pour elle-même, mais des dessins de sciences naturelles. Elle découvre l'aquarelle. Vous avez de très belles pages sur les œuvres qu'elle fait, qu'elle détruit parce qu'elle est mécontente d'elle, elle recommence, et évidemment un progrès s'observe. Et puis, elle a un goût véhément pour la campagne. Elle va, je ne sais pas, jusqu'à parcourir la campagne toute seule, presque seule, bien cochée, dans une petite charrette tirée par un âne, elle va jusqu'à pêcher la truite à la mouche. Elle se promène avec passion, et à la fin du livre de Marie-Aude, avec l'argent que vont lui rapporter, soutenu qu'elle est par des éditeurs, ses premiers livres, elle pourra, ses parents ayant des difficultés financières, racheter, elle toute seule, la maison de campagne que tous les ans il louait. Et désormais, les parents sont hors d'état de la louer. Alors ce domaine du Kent s'appelle Dingley Bell, et le nom ne doit pas vous étonner. Vous le trouvez dans les papiers posthumes de Mr. Pickwick. Chez Dickens encore. Tout ou presque dans ce livre renvoie à Dickens. À partir du moment où elle a découvert le dessin humoristique d'animaux, elle se sent tenue de composer une histoire, d'écrire. Elle teste ses histoires auprès de plusieurs enfants. Bref, vous avez la naissance d'un écrivain et d'un artiste. Qui peu à peu, n'est-ce pas, glisse vers le professionnalisme. Et puis, très attachant aussi, ses parents, sa mère ne lui donne jamais d'argent de poche. Une jeune fille dans un milieu riche n'a aucune dépense à faire, bien sûr. Or, elle a besoin d'argent. Elle a besoin d'argent pour affranchir ses lettres, qu'elle expédie clandestinement. Elle a besoin d'argent pour libérer ce professeur de piano et d'aquarelle qui a été congédié et qui croupit dans un abominable établissement d'enseignement, il faut l'envoyer de l'argent, il faut l'aider à s'évader, etc. Charity avait une bonne, une écossaise aux somptueux cheveux rouges. Cette écossaise est devenue folle. Il est vrai qu'elle a mis le feu, n'est-ce pas, à la maison. Donc à partir de ce moment-là, on l'interne. Mais Charity garde pour elle beaucoup d'affection, elle veut améliorer son ordinaire dans l'asile d'aliénés de Londres, il faut de l'argent. Donc, elle a besoin d'argent. Et puis, elle a mesuré, ce dut être le cas de Beatrix Potter, que ce fut le cas en tout cas de George Sand, le nombre de femmes qui mesuraient que pour s'émanciper du joug masculin, il leur fallait évidemment de l'argent. Seule condition de l'indépendance de quiconque, et encore et surtout des femmes. Donc, assumant presque déjà avec des accents féministes, hein, Bernard Shaw, quand il l'a vu habillé en homme, lui a demandé « N'êtes-vous pas féministe ?» Donc, voulant absolument se libérer du poids de sa mère, surtout, grugée qu'elle a été par quelques éditeurs, négociant ferme avec ses éditeurs, elle va s'assurer son indépendance financière d'abord et sa liberté tout de suite après. Un autre aspect de ce roman d'apprentissage, c'est évidemment l'amour. Les parents organisent autour d'elle une ronde de prétendants tous plus ridicules les uns que les autres. Le plus ridicule est celui qui est timide, il ne sait pas comment parler aux femmes. Il trouve que c'est très gênant, n'est-ce pas, d'être homme seul avec une femme. On ne trouve pas de sujet de conversation, d'autant que presque tous sont proscrits par les bons usages. Donc ce jeune homme a des manchettes en tissu blanc amidonné, et il écrit, alors sur sa manchette droite, des sujets de conversation particulière, et sur sa manchette gauche, des sujets de conversation générale. Et il ne parle jamais à une fille sans jeter un coup d'œil furtif sur une manchette. C'est un peu un pense-bête. Bon, ce prétendant est rédhibitoire. Elle éprouve un faible pour un de ses cousins, qui est noble, charmant, très cultivé comme elle, mais ce cousin est lymphatique. Elle dit vrai, n'est-ce pas, ce cousin est malade, Philippe Bertram, il est malade, il est tuberculeux. Et en cours de roman, il va s'éteindre, mourir de tuberculose. Alors elle est partagée entre l'affection et l'apitoiement. Et ce cousin, une fois, a été très entreprenant avec elle. Il rentrait dans une voiture, dans la pénombre, et furtivement, il lui a pris la main. Elle en est gênée. Elle a presque honte elle-même et la honte pour lui, qu'elle se soit égarée à ce geste inconvenant. Mais le grand amour de sa vie qu'elle y poussera, c'est Kenneth Ashley, qu'elle compare dès sa première entrée dans le roman à un renard. Il est très beau, il est d'une famille convenable, mais il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, il n'en aura pas, parce que sa mère veuve s'est remariée stupidement avec quelqu'un qui lui mange le peu d'argent qui lui reste. Ce personnage est imprévu, capricieux, coquet, vif, très spirituel. On le compare à un brigand, et il rompt avec sa famille et devient acteur. Et d'abord acteur dans des théâtres londoniens minables. Mais cet acteur ne manque pas de talent. Encore que sur scène, il cabotine. Par la suite, poussé par les remontrances de Charity qu'il rencontre, inopinément, peut-être pas tout à fait inopinément, ne lui déplaît pas de la retrouver à chaque fois de la surprendre. Plus tard, Ashley jouera à Londres avec beaucoup de succès les meilleures pièces d'Oscar Wilde et de Bernard Shaw. Donc il va devenir le grand acteur anglais de sa génération. Comme elle l'a connu quand elle avait 10-12 ans, et qu'elle garde de sa première rencontre avec lui un souvenir inoubliable lors d'une fête de Noël où il organise un jeu extraordinaire, cet amour de Charity pour Ashley ressemble un peu à un amour d'enfance. Alors là, je crois que Mérôde Muraille s'est souvenu de la comtesse de Ségur. Les meilleurs mariages sont toujours ceux où vous pouvez épouser un petit ami ou une petite amie de votre enfance. Ayant connu ma femme quand elle avait 6 ans, 7 ans, je l'ai épousée, je suis très heureux. Pour la comtesse de Ségur, n'est-ce pas, il faut... Chez la comtesse de Ségur, c'est encore plus compliqué parce qu'on a l'impression de petites cellules endogamiques. Il faut se marier, n'est-ce pas, entre soi. À la fin des malheurs de Sophie, je ne sais pas si vous vous souvenez, Paul et Sophie partent en Amérique, hein, pour traverser l'océan. et Sophie donne des ordres à Paul. Paul voudrait être marin. Et Sophie lui répond, pas du tout, tu ne seras pas marin, tu resteras avec moi. Elle a 5 ans. Donc Sophie est possessive envers Paul. On devine, n'est-ce pas, que dans le livre qui suit, Les Vacances, on devine au regret de Sophie qu'elle aurait bien aimé que Paul l'épousât, bien qu'il fût cousin germain, au lieu d'épouser Marguerite de Roseburg. Donc chez Madame de Ségur, le bel amour doit commencer dès l'enfance, au vert paradis des amours enfantines. Le rapprochement des deux personnages, et cela va les conduire au mariage, est très bien ménagé par Marjolaine Buraille, avec d'abord Charity est toujours surprise, dérangée, par Ashley qui arrive sans qu'elle l'ait du tout prévu. Et ils ont un code entre eux, ils la quittent en lui disant « Le bonjour, Miss Tidler ». Et à la fin, elle lui répond « Le bonjour, Mr. Ashley ». Sorte de mot de passe entre eux. Elle lui rend beaucoup de services, lui lui en rend également, mais ils sont extraordinairement différents. Donc ce sont des personnages, elle est d'une famille très huppée, lui d'une famille bien déchue. Elle est sans beauté, peut-être même est-elle laide, lui est superbe. Lui est extraverti, il n'a aucune timidité puisqu'il devient comédien. Bon. Et en tout cas, il a dominé, au début, il semble, n'est-ce pas, être fort peu timide. Elle est toute timidité. Donc vous avez l'extraverti et puis la jeune fille tout intérieure. Elle est vertueuse, comme vous vous en doutez, elle n'a pas d'occasion de faire le mal, et elle n'en a aucune envie. Lui, comédien, avant leur mariage, est passablement débauché. Et Charity imagine à quel point sa famille doit jaser, parce que ces noces, sans avoir été invitées, 3 comédiennes, qui furent toutes les 3 les maîtresses de son mari, sont là, pour venir voir. Et si je me demande si elle n'a pas pensé à un roman de Barbé de Révélie, où lors du mariage du héros, à l'église Saint-Thomas d'Aquin, la maîtresse du héros, l'ancienne maîtresse du héros, qu'il aime toujours, est huchée dans la tribune d'orgue, à regarder le mariage de son amant. Et puis alors, ce roman d'apprentissage a encore un autre aspect, à savoir, comme chez Dickens, le roman produit une peinture sociale très, 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 très précise. Et cette peinture est évidemment sévère pour la gentry victorienne. Les jeunes filles n'ont aucune liberté, même pas la liberté d'écrire des lettres. Les lettres qu'elles reçoivent sont lues par les parents, elles sont privées d'argent, et le père ne dit rien, ni à sa femme, ni à sa fille. Et la mère est contre absolument tout ce à quoi aspire sa fille. Les filles ne font pas d'études, n'ont pas le droit d'aller seules visiter un musée, les parents refusent que Charity s'inscrive pour suivre des cours de dessin, et toujours tombe le verdict de la mère, ce n'est pas convenable. Pas question de gagner de l'argent, on n'a pas le droit de choisir l'homme que l'on va épouser, et la mère a un idéal de conformisme. Donc Miss Charity, contre ce milieu, évidemment, devient une espèce de porte-parole du féminisme. Alors elle se décide à mentir à ses parents. Et quand elle sort, elle triche, elle prend l'escalier de service, comptant sur la complicité de la cuisinière ou de sa bonne. Finalement, elle se déguise à l'insu de ses parents 2 fois en homme. Elle va chercher à Ashley dans une fumerie d'opium, dans les mauvais quartiers de Londres, et elle pénètre en homme, je vous le disais, dans le club que hante Bernard. À la fin, cri de triomphe avec le mariage, elle connaît le bonheur, elle aime qui elle aime, et dont elle est aimée, mais avec le mariage, elle a conquis la liberté. Et dès auparavant, l'argent lui permettait cela. Alors on a bien l'impression que contre le conformisme de la bonne société victorienne, Marjolaine Buraille a dressé toute une série de traits, de personnages qui évoquent la vie, la vraie vie. Cette société est morte, elle est mortifère, elle s'est immobilisée dans son conformisme. Charity désobéit, transgresse, elle aime les animaux, elle en fait mourir beaucoup, mais elle en conserve aussi, bien vivants. Et ceux qu'elle dessine sont très vivants. Elle aime les animaux, elle aime les enfants, ses parents sont de les aimer guère, elle aime l'invention artistique, elle goûte les caprices du cœur, elle aime le théâtre. Bref, vous avez un petit personnage qui fait craquer tout le conformisme victorien. Donc ce livre, comme les livres de Dickens, est un livre à thèse. Il y aurait beaucoup à dire sur la satire. Le livre est très caustique. Alors c'est une constante de Malraux de Muraille. Son œuvre est à la fois, toute son œuvre, émouvante et drôle. Et elle a le secret d'un dosage. Je n'ai pas lu d'elle de livre où le dosage fut déséquilibré, où il y eut, vous voyez, trop de sérieux, trop de pathétique et pas assez de cocasserie, ou bien trop de gaieté et pas assez de profondeur ou de gravité. Elle sait parfaitement alterner ceci avec cela. Pour ce livre, elle a, à mon avis, puisé dans Thackeray, le livre des snobs, et puis dans l'admirable Foire aux vanités, où vous avez des aristocrates dépravés, des femmes à la tête légère, des snobs, des gens imbus de leur supériorité, des aristocrates anglais milliardaires, dont le seul intérêt est leur élevage de vaches ou de moutons, ou la pêche à la truite, par exemple. Contre cette société se dresse le petit personnage de Charity, qui a beaucoup d'esprit, et quand elle est mariée et qu'elle raconte sa vie, la narration est très spirituelle, mais enfant, elle est déjà moqueuse et railleuse. Heureusement, les parents ne comprennent pas bien, n'est-ce pas? Les insolences, où elle est. Alors, les portraits satiriques de Malraux de Muraille sont tout à fait savoureux. Maman, chapitre 6. Maman ne s'était jamais beaucoup préoccupée de moi. Mais plus je grandissais, plus elle semblait apprécier mes qualités, la première étant d'être muette. Maman avait beaucoup de choses à me raconter à propos des visées de Miss Dean sur le révérend Donovan et sur le fait que Mary ne savait pas cuisiner le pudding aux rognons. Par ailleurs, maman souffrait des nerfs et elle avait découvert que je savais faire ce qu'il fallait pour la soulager parce que l'insensibilité, mon autre qualité, me rendait efficace. Je lui faisais respirer des sels quand elle menaçait de s'évanouir et je lui mettais une poche de glace sur le front quand le sang lui montait à la tête. Puis, comme elle se tordait les chevilles dès qu'elle faisait trois pas, elle avait besoin de s'appuyer à mon bras, même pour aller jusqu'à sa calèche. Elle était d'ailleurs persuadée que j'étais enchanté de quitter la nurserie, ses troisième étage, pour aller en visite avec elle chez ses amis. J'avais fini par prendre l'habitude de réciter mentalement du Shakespeare, ce qui faisait que ses mêmes amis me demandaient régulièrement si j'avais mal aux dents. Voilà un bel exemple, n'est-ce pas, de cette prose assassine. Le père ne manque pas de ridicule, il se passionne pour la photographie. Vous avez des snobs de toutes sortes, des maris consternants, etc. Les dialogues sont conduits, cette fois sur le modèle de Bernard Shaw, d'Oscar Wilde, avec beaucoup de British humor. Hein. On se lance la balle. Très rigoureusement. Et puis, vous trouvez des descriptions ironiques, un pique-nique, dans la bonne société du second 19e siècle. Le moment le plus mémorable de cet été fut celui du pique-nique que Tante Janet organisa. Pour réussir un pique-nique, il faut prévoir 6 homards, un roulet tête de veau, des feuilletés à la confiture, beaucoup de bière, des jeunes gens, une vieille fille pour les surveiller, 3 ou 4 enfants faciles, quelques messieurs mûrs, des ruines à visiter, rien à voir avec les messieurs mûrs, des fraises à cueillir, un orage en fin de journée. Tante Jeannette avait pensé à tout. Vous voyez la série. Les enterrements aussi, où l'on multiplie les fausses larmes pour diverses raisons. La visite du muséum. Bon, il y a toute une série de péripéties qui sont présentés de manière assurément caustique. Le résultat est que, par moment, mais c'est une des caractéristiques de l'humour anglais, le roman frôle l'absurde ou le loufoque. Charity avec les animaux a des rapports tout à fait extraordinaires. Elle les aime, elle les accueille, elle les soigne, elle les loge chez elle, elle les peint, elle leur donne vie. Mais d'un autre côté, sans doute parce que Marie-Aude Muraille se souvient des malheurs de Sophie, elle fait crever quand elle est petite quantité d'animaux qui étouffent, qui sont maltraités, mal soignés, etc. Qu'à cela ne tienne, n'est-ce pas? On en trouve un autre. Le hérisson meurt, on l'enterre et on cherche un autre. Donc vous avez un personnage, si j'ose dire, qui fait une étonnante transformation d'animaux. Les rapports des animaux et des humains sont également très cocasses. Les uns aiment les animaux à la passion. Il n'est pas question dans le livre de l'amour démesuré des Anglais pour les chiens. Mais d'autres Anglais abominent les animaux. Il en va de même pour les animaux de papier. Certains aiment beaucoup Peter Rabbit, et d'autres trouvent ses dessins maladroits ou naïfs, voire inconvenants. D'où des rencontres. Vous avez des épisodes carrément extravagants. La bonne écossaise de Charity, Tabitha, devient progressivement folle. Elle sombre dans la folie quand elle met le feu au troisième étage de la maison, entourée, n'est-ce pas, d'un corbeau qui l'en a appris à parler et d'une horde d'animaux qui vont mourir les uns dans l'incendie, d'autres s'en évader, etc. Et on va rendre visite à deux reprises à l'asile d'aliénés de Londres à la malheureuse Tabitha. Convenez, n'est-ce pas, que il est rare dans la littérature de jeunesse de trouver des visites d'asile d'aliénés. C'est possible. Du moins, cela existe dans notre livre. Les amours de Mademoiselle Blanche, la professeure de piano et d'aquarelle de Charity, avec un précepteur allemand, Herr Ulrich, ces amours sont d'une complexité étonnante. C'est une love story qui a failli se terminer très mal. Herr Ulrich est obligé d'aller enlever sa bien-aimée Blanche dans un mouroir pour orphelins, où elle est séquestrée à l'infirmerie, avec un bras gangréné. Et du reste, elle perd un bras. Il est rare que des héroïnes de roman perdent un bras. Elle est donc véritablement martyrisée. Qu'une jeune fille déguisée en homme fasse une visite à une fumerie clandestine d'opium à Limehouse, dans les plus bas quartiers de Londres, ce n'est pas si fréquent. Je trouve que le personnage de Mrs. Tadler, la maman de Charity, ce personnage est monstrueusement conformiste, égoïste, sot et même stupide. Mais Marie-Aude Muraille est très narquoise envers les parents, également envers les instituteurs, les professeurs des écoles. À longueur de livre, elle se moque de parents débordés par leur progéniture. Elle peut être très cruelle envers des parents indifférents, mais vous avez des parents monstrueux chez Dickens, qu'elle aime tant, et vous en trouvez aussi chez la comtesse de Ségur. La maman, il y a un corbeau qui en a appris à débiter quelques répliques toujours les mêmes. Vous verrez que le répertoire de ce corbeau est très original, très singulier. Il ne dit pas, n'est-ce pas, comme le corbeau d'Edgar Poe, de la mort. Il dit tout autre chose, y compris des horreurs. Je trouve très amusant aussi, et très singulier, que Charity, pour purger son ennui, ait appris par cœur quantité, in extenso, quantité de pièces de Shakespeare, tragédie et comédie, et vous lisez le livre, à tout bout de champ, sa mémoire fait passer un bout de Shakespeare. C'est assez rare. Philippe Nemo nous parlait de sa petite fille qui s'est cultivée. À tout moment, elle doit réciter un passage de la comtesse de Ségur, mais peut-être pas du Racine ou du Corneille. Bon, Charity en est capable. Et puis, Shakespeare me met sur la voie d'un nouvel aspect de ce roman, c'est les hommages qu'il rend sans arrêt à de la littérature, anglaise ou pas. On devine que l'auteur, Marie-Aude Muraille, a nourri ce livre de tout ce qu'elle aime. Alors, Dickens, hein, bien sûr, l'abominable pension où Mademoiselle Blanche est sur le point de mourir, ressemble à ces pénitenciers où chez Dickens on enferme les Colin Nickleby, Mr. Squeers par exemple. Chez Dickens, dans Barnaby Grudge, vous avez un corbeau qui parle, qui s'appelle Grip, ici aussi. Beaucoup de noms propres des personnages viennent de Dickens. Kenneth Ashley, l'amant de Charity, ressemble beaucoup au terrifiant Steerforth dans David Copperfield. Jeune homme très séduisant, mais tellement égoïste qu'il va devenir exécrable, détestable. Et comme chez Dickens, vous avez du comique qui alterne avec du pathétique. Mais aussi, il s'est souvenu de Jane Austen. Charity a une tante et marraine. Jane Austen est nommée dans le livre. Cette marraine s'appelle Lady Bertram. Dans Mansfield Park de Jane Austen, vous avez une Lady Bertram. Et dans ce roman de Jane Austen, les jeunes gens font du théâtre, montent pendant l'été une pièce de théâtre. Chez Jane Austen, ils montent une comédie de la fin du XVIIIe siècle anglais qui s'appelle Les Serments d'amoureux. Vous la trouvez en anglais et traduite en français sur Internet. Or, chez Mario de Muraille, que font les jeunes gens de ces familles huppées? Ils s'amusent à monter une pièce de théâtre. La pièce de théâtre s'appelle, comme par hasard, Les Serments d'amoureux. Et chez Jane Austen, comme chez Mario de Muraille, ces jeunes gens qui répètent une comédie opèrent des transferts entre la fiction du théâtre et la réalité de leurs existences. Et c'est une pièce inconvenante, puisqu'elle est sentimentale. La mère de Charity est évidemment opposée à cette sorte-là de théâtre. Et sur scène, il y a une intrigue amoureuse, et les jeunes gens, évidemment, n'est-ce pas, sont embarqués aussi dans des amours. Ashley devient comédien. Je vous rappelle que la description de la troupe et de leurs amours dans Nicholas Nickleby, où il est beaucoup question du mépris de la bonne société envers le métier d'acteur, vous avez la description de toute une troupe. Bon, Shakespeare, que Mario de Muraille doit connaître et aimer, est très présent. Et puis, j'en ai fait le relevé, Bernard Shaw et Oscar Wilde sont des personnages du roman. Des vers de Tennyson sont cités, une ballade de Goethe est alléguée, on nous cite des vers de Richter, le Werther de Goethe est cité, on nous parle de peintres, à la faveur de discussions avec les éditeurs sur la sorte de littérature qui convient aux enfants. Il est question, sans que le livre soit nommé ni son auteur, mais d'un livre extraordinaire que vous avez peut-être lu quand vous étiez petite fille, au petit garçon, Krastinias, Strobelpeter, de l'allemand Heinrich Hoffmann, 1847, et c'est très vite traduit en France, dans les années 1850. Ce sont de courtes histoires avec des enfants qui commettent des bêtises et qui en sont punis de manière abominable. Mais l'auteur était médecin psychiatre, aliéniste. Bon, il avait l'habitude, n'est-ce pas, de crimes commis, de crimes, non, mais d'horreurs, commise par des aliénés. Vous avez l'histoire de Pauline, qui joue avec des allumettes. Ça vous dit rien? La maman part et dit à Pauline de ne pas jouer avec les allumettes. Pauline joue avec les allumettes. Sa robe prend feu. Alors il y a des dessins très cocasses. Et à la fin, vous avez les deux chats de la maison qui sanglotent autour d'un tas de cendres avec deux chaussons. C'est tout ce qui reste de Pauline. Non? Et Conrad qui ne veut pas manger sa soupe. Première image, non, 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 je ne mangerai pas ma soupe. Deuxième image, non, non, non. Alors Conrad a un peu maigri. Troisième image, il est comme un fil de fer. Dernière image, une tombe au cimetière, Sigy Conrad, et posé sur la tombe la soupière. Bon. Pédagogie rude. Donc il est question de ce livre. Il est aussi question dans les scénarios avec ces petits animaux que prévoit Charity, devenue illustratrice, dessinatrice, auteur, illustratrice. Il est question de petits cochons qui, pour se sauver, sautent à travers un tableau et rentrent dans l'univers du tableau. Alors ceci, vous devez connaître, puisque dessinateur anglais, traduit et publié par Gallimard Jeunesse, J.S. Goodhall a donné de tout petits livres sans texte. Et vous tournez des pages et se déroule l'histoire. Et vous avez, les belles vacances des petits cochons. Une soirée au théâtre avec Monsieur Catastrophe. Ça ne vous dit rien? La demoiselle d'honneur insupportable. Une petite souris qui est demoiselle d'honneur. Et elle trouve très amusant de sauter sur la traîne de la mariée et elle a l'impression de glisser sur de la neige. Bon, que font les poupées la nuit quand les enfants dorment? Évidemment, les poupées la nuit montent sur la cheminée, sautent dans le tableau qui est au-dessus de la cheminée et se perdent dans la campagne anglaise et connaissent quantité d'aventures et des chiens les poursuivent. Vite, 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 elles sautent dans la chambre, sortant du monde de la campagne pour revenir dans la chambre, le château de la peur, les aventures du cochonnet coquet, pique-nique, tempête et naufrage, c'est les mésaventures d'un petit singe. Bon. Donc cette littérature pour enfants, elle est là. Madame de Ségur est très présente, je vous le disais, on visite des ruines, comme les enfants dans le Libre de l'âne visitent des ruines. Beaucoup d'animaux de charité meurent, Sophie est un véritable Attila pour tous les animaux que sa mère lui permet de posséder. Donc les clins d'œil à Madame de Ségur sont là. Donc ce livre est un livre littéraire, nourri de littérature, rendant hommage à la littérature et à la lecture. Il y a toute une série de considérations sur l'extraordinaire avantage qui est celui de pouvoir lire jeune, le plus jeune possible. Et vous avez toute une page de considérations sur l'art de lire un roman quand on est un enfant. Un enfant ne lit probablement pas comme un adulte. Alors ce livre, il est très original, il est émouvant, très émouvant par endroits, il est amusant et il est instructif. Je trouve aussi qu'il est original, je vous le disais, il est très personnel. Hein. Marie-Aude Muraille n'aime pas beaucoup parler, elle est laconique, Charity aussi. Marie-Aude Muraille, jeune, se travestissait en homme, Charity aussi. Marie-Aude Muraille est très insolente pour la quantité d'institutions, notamment mariage ou des valeurs bourgeoises. Même chose ici. Et un personnage féminin qui va consacrer toute sa vie à dessiner pour les enfants, convenez que ça a beaucoup à voir avec Marie-Aude Muraille qui a consacré toute sa vie, ou presque, à écrire pour les enfants. Alors Flaubert disait, paraît-il, Madame Bovary, c'est moi. Je pense que Marie-Aude Muraille peut lire Miss Charity, c'est moi. Le livre, qui est vraiment à sa ressemblance, mais le personnage aussi. Donc, d'une certaine façon, ce livre serait une espèce d'autobiographie ou un autoportrait par personnage interposé.